Bonjour à toutes et à tous. Alors, nouvelle vidéo sortie de séance. On a vu ce matin un des films aussi les plus attendus de cette édition, notamment parce que Yorgos Lanthimos, donc c'est le film dont on va parler, Kinds of Kindness, étant quand même à le vent en poupe, on va dire, puisqu'il a remporté le Lion d'Or en septembre dernier avec Poor Things, Pauvre Créature en français, qui est sorti en début d'année et qui a eu quand même un succès, moi je trouvais assez étonnant par rapport à la filmographie de Yorgos Lanthimos, qui était quand même quelqu'un qui vient d'un cinéma européen assez pointu, qui petit à petit voilà, a intégré des acteurs américains notamment dans son cinéma. C'est le cas exemplairement ici, puisque c'est un film américain qui a la petite particularité d'être découpé donc en trois, on va dire, moyens métrages, en fait, trois épisodes ou trois variations. Comment résumer les trois situations? Elles sont assez analogues tout en étant assez différentes. La première, on va suivre donc un personnage qui est joué par Jesse Plemons, être un peu pris au piège en fait d'une sorte de gourou, son supérieur dans une boîte de cabinet d'architecture manipule en fait un petit peu sa vie. Il va se retrouver dans une mauvaise posture. Le deuxième segment voit le retour d'un personnage qui a disparu en mer, qui est joué par Emma Stone, qui retourne au foyer donc avec son copain Jesse Plemons là encore. Évidemment, les retrouvailles vont se passer de manière assez étrange, il va se passer plusieurs choses. Et puis, dans un troisième temps, on va avoir là, justement, on retrouve le personnage d'Emma Stone qui est un peu plus au centre, qui est en fait à la recherche d'une personne, alors c'est pas forcément très clair.
Du messie, un petit
une
peu.
Une sorte de prophète, de personne avec des pouvoirs surnaturels au service d'une secte, qui est menée par Willem Dafoe, sachant que c'est aussi l'un des acteurs principaux. Il faut savoir que tous les acteurs jouent dans les trois parties des rôles un petit peu différents. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce film, Josué, en trois parties, notamment peut-être par rapport aussi au parcours de Yorgos Lanthimos, qui vient du cinéma européen, cinéma assez conceptuel, on va dire, au moins depuis, on va dire, Alps, Canine, et puis The Lobster.
Oui, en fait, je trouve ça très intéressant parce que je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que justement il y a une logique un peu de continuité sur le fait de prendre des acteurs américains, etc. Parce que j'ai l'impression, au contraire, qu'on a un cinéaste qui a eu coup sur coup un Grand Prix, un Lion d'Or à Venise, qui a eu aussi un succès aux Oscars, puisqu'il a fait quand même remporter des Oscars à ses actrices, et qui là, en fait, quelque part, une fois qu'il est un peu installé, entre guillemets, dans une forme qui est un peu plus populaire, qui a un peu plus de succès dans les grands festivals, qui a un peu plus de succès institutionnellement aux États-Unis, qui revient un peu à ses premiers amours de certaine manière, c'est-à-dire une forme de comédie, du moins dans la structure narrative, qui se veut un peu expérimentale, ne serait-ce que par l'invention de règles, de codes, de principes un peu arbitraires qu'on découvre au fur et à mesure sans nous donner directement le mode d'emploi. Je trouve ça assez curieux, en tout cas comme parcours, c'est-à-dire de revenir un peu à cet horizon-là, même si je pense que quelque chose s'est perdu depuis Canine, qui était un film d'ailleurs qui avait été révélé à Cannes de mémoire à un certain regard, qui était un film assez curieux, ou même The Lobster, qui jouait aussi beaucoup de cette logique-là. On le devine un peu en écoutant ton synopsis des trois films.
Laborieux, mais bon, en même temps...
Non, mais en fait, c'était intéressant notamment dans le premier, parce qu'on découvre les règles au fur et à mesure, mais en gros, c'est toujours un peu la même situation, c'est-à-dire qu'il y a un peu une société dans la société, il y a un peu des sociétés secrètes, il y a toujours eu ça chez Lanthimos, des sociétés secrètes, que ce soit la famille de Canine, que ce soit l'espèce de consortium d'acteurs dans Alps, que ça soit The Lobster évidemment, et ce sont des personnages qui tous à un moment donné dans
même
les trois
c'était une sorte de vase clos au départ et après
manière, mais justement c'est peut-être un peu des problèmes de Pauvre Créature, c'est que le monde d'emblée était décalé, et donc je suis pas sûr qu'il y avait un si grand décalage dans la figure d'Emma Stone et de son parcours, mais là il y aurait cette idée d'un personnage qui visiblement est engagé pour être un acteur et obéir au doigt et à l'œil des consignes que lui donne son patron. Et en gros, ce qui est très intéressant dans ce... Il en fait un principe de comédie, c'est que c'est un acteur à un moment qui dit non, ça, je ne peux pas jouer ce rôle, et qui d'une certaine manière se rend compte qu'il est évincé du jeu et qu'il va essayer par ses propres moyens, par des logiques même de répétition, par un jeu dans le jeu, d'essayer de retrouver sa place et de retrouver grâce aux yeux du maître de jeu. Je ne vais pas faire ça pour chaque partie, mais ça raconte déjà un petit peu quelque chose, c'est-à-dire qu'on a... D'une certaine manière, je pense que Lanthimos, qui pourtant s'amuse beaucoup avec ses acteurs, et c'est un paradoxe, à mon avis, qui est intéressant, qui est un nœud aussi, un nœud critique, mais c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup, mais qui, dans le même temps, envisage ses acteurs comme des souris dans un laboratoire, dans un espèce de labyrinthe. Et quelque part, les personnages des jeux de Lanthimos ne dérogent jamais aux règles qui leur sont imposées, les suivent un peu docilement, ils sont soumis, il y a une soumission aux règles, et évidemment, et qui est évidemment le maître du jeu, c'est Lanthimos. D'ailleurs, Lanthimos qui ici est quelque part redoublé par un acteur en particulier, qui est Willem Dafoe, puisque Willem Dafoe joue le maître du jeu dans la première partie et joue le chef de la secte, le gourou, dans la troisième. On se souvient aussi qu'il était God, le créateur, dans Pauvre Créature, donc il est en train de s'affirmer comme une espèce de relais à l'intérieur du plan, à l'intérieur du récit de Lanthimos, et que, d'une certaine manière, voilà, on arrive sur un espèce de jeu de circulation où, en fin de compte, c'est aussi peut-être la limite du film, et ça se voit, je trouve, en particulier dans les acmés de la dernière partie, où en fait, il n'y a pas vraiment de sortie de route. On n'arrive pas vraiment à sortir de ce circuit-là. Et je trouve ça très intéressant dans la première partie qui joue sur un truc un peu fantastique et qui n'a rien de surnaturel, qui a quelque chose même d'une absurdité, à savoir, on a l'impression que des personnages s'imposent un mode de fonctionnement sans raison aucune. Tandis que les deuxième et troisième parties, c'est plus une question de récit. Et ça permet de constater aussi que, en fin de compte, dans la première partie, même si je trouve qu'il y a des choses un peu intéressantes de dispositif, scène, etc., sa mise en scène, quand même, c'est un peu rigidifié, disons, à partir de Mise à mort de Saint-Sacré, qui d'ailleurs était présenté aussi ici à Cannes.
C'était aussi un peu le premier film, d'ailleurs, avec des acteurs, on va dire.
Il y avait The Lobster avant.
Donc, c'était un film qui tournait aux États-Unis. Moi, je suis d'accord, en tout cas, avec là aussi la distinction que tu fais entre les trois. C'est souvent le cas dans les films à sketch, on va dire, ou découpés, c'est qu'on arrive très vite à voir un petit peu
où c'est bien et où c'est un peu plus faible.
C'est tellement dialectique dans la structure que forcément, nous, on est obligé de comparer un petit peu quand on regarde le film. Et je suis d'accord que la première partie, pour le coup, j'étais assez un peu agréablement surpris, toute proportion gardée.
C'est un peu drôle quand même.
Dans la mesure où il y a une forme de drôlerie, c'est une comédie noire comme toujours chez Lanthimos, mais c'est jamais vraiment aussi un cinéaste qui est très léger, ou en tout cas qui assouplit. C'est vrai que, comme tu dis, c'est quelqu'un qui aime bien verrouiller aussi ses films. Souvent, on a des personnages, en fait, comment on pourrait résumer ça, qui veulent à un moment casser les règles du jeu ou sortir du plateau. Et final, qui finissent par se rendre compte que même en étant dehors, en fait, on y est toujours. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça de en fait, la prison dans laquelle on pense s'échapper finit toujours par nous rattraper, qu'on le veuille ou non. Et les trois segments, de toute façon, se finissent toujours par une sorte de retour à l'intuition initiale du début. Du piège, en fait, qui est tendu au personnage principal. Tu parlais de mise en scène, moi, c'est typiquement le point sur lequel, en fait, j'adhère le moins au film, presque, quelque part, dans la mesure où, en fait, c'est un cinéaste qui a au moins la réputation, en tout cas, de livrer des films un petit peu quand même subversifs, ou en tout cas un petit peu grinçants, qui provoquent de la gêne, qui provoquent une forme de révulsion aussi sur certaines séquences. Là, je m'attendais à quelque chose de... un petit peu dans la lignée, en fait, on m'avait évoqué le fait que Mise à mort du cerf sacré était un petit peu la matrice de ce film-ci. Je suis à moitié d'accord dans la mesure où Mise à mort du cerf sacré était un film relativement quand même un peu détestable, on va pas se mentir, très froid, très clinique. Là où au contraire, il me semble, et je sais pas ce que t'en penses, que c'est un film beaucoup plus accueillant, en fait, quelque part même avec des effets de mise en scène très académiques presque, on va dire. Je vais vous donner un exemple, les travelling avant très très lents.
Alors justement, ça c'est intéressant parce que je pense qu'il y a un académisme, Lanthimos, qui s'est créé notamment avec le fisheye, etc. Ça plutôt à partir de La Favorite, mais il y a déjà les germes de tout ça dans Mise à mort du sacré. Mais il y a quand même, par exemple, je trouve, notamment par rapport à Pauvre Créature, beaucoup plus de plans larges qui sont assez dépouillés et qui figurent justement des espaces, généralement même un peu des gratte-ciels, etc., ou des grandes maisons qui sont des souricières en fait. Et il y a des choses, par exemple, sur le travelling avant. Moi, il y a un travelling avant que j'aime bien. Alors, il y a un travelling avant qui joue sur un effet de répétition avec des notes de piano à la Eyes Wide Shut, quelque chose d'un peu lourdingue qui produit une sorte de comique un peu dissonant, moi qui me parle pas beaucoup et que je trouve un peu épuisant la force. Par exemple, il y a un moment, il y a un travelling avant sur Jesse Plemons. En fait, ce travelling avant se couple avec le mouvement de l'acteur qui essaye de se cacher sous les buissons pour observer son ancien patron dans une scène qui est un petit peu ridicule, où par exemple il y a
comme une proie qui se cache,
la répétition d'un rêve où il attend dans un parking et il est coupé bizarrement par les arêtes de l'espace. Donc il y a quand même des petites idées, je trouve, notamment dans la première partie. Des plans larges qui permettent un peu quand même de... Mais je pense que ça rejoint cette idée de la souris. Tu vois, la souris de laboratoire me semble être vraiment presque le soubassement esthétique de ce que vise Lanthimos. Et puis, ce qui est curieux, c'est qu'en fin de compte, c'est la partie la plus concentrée, la plus intéressante à la première, et que les deux suivantes sont moins rigoureuses, sont plus étiolées, et qu'il y a aussi une prise de pouvoir qui peut-être est à relier à l'ensemble de la trajectoire de Lanthimos, c'est-à-dire qu'on démarre sur un acteur qui est moins connu, que moi j'aime beaucoup, qui est Jesse Plemons, et qu'au fur et à mesure des histoires, la figure d'Emma Stone qui joue dans Les Trois prend de plus en plus d'importance, quitte peut-être à prendre le pas sur...
Une trajectoire un peu inversée, les deux acteurs principaux, en fait...
Leurs trajectoires se croisent en termes d'investissement dans les différents récits.
Complètement, et il est vrai que du coup, Jesse Plemons est un acteur peut-être un peu plus... Même sa posture, même sa carrure, même sa manière de se déplacer ressemble beaucoup plus peut-être à un Colin Farrell dans Lobster, c'est-à-dire une sorte de bonhomme un petit peu recroquevillé, un petit peu
corseté,
un peu gêné,
contraint,
qui qui se marie très bien, je dois le dire quand même, avec voilà, l'espèce de geôle en fait que construit Lanthimos. Alors qu'Emma Stone, c'est un peu une actrice, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui déborde, c'est quelqu'un qui vient effectuer quelques pas de danse toujours, ou qui vient effectuer des gestes un petit peu extravagants. Enfin voilà, c'est une actrice qui a une palette de jeu qui est un petit peu à l'opposé de Jesse Plemons finalement quand on y pense. Elle transformait presque la mise en scène de Lanthimos dans les deux films dans lesquels elle jouait le rôle principal, La Favorite et Pauvre Créature. Et là, on sent aussi voilà une sorte de presque de conflit interne dans le film où on voit un petit peu deux formes qui se contredisent un petit peu, c'est-à-dire le côté voilà un petit peu souricière comme tu l'as dit, je trouve l'image assez juste, et de l'autre côté au contraire une forme d'extravagance en tout cas qui à moi me semble vraiment surfaite et très artificielle dans la mesure où en fait elle se repose beaucoup quand même sur des automatismes je trouve déjà malheureusement voilà chez Lanthimos, c'est-à-dire la fameuse musique où tu vois un petit peu Kubrickienne en 2001, vous savez, enfin, de bruit un petit peu de ouh comme ça, un peu ancestral, qui vient se poser sur des gros plans avec un zoom très léger vers un personnage pour créer du malaise, je trouve, de manière assez automatique et assez finalement assez répétitive, redondante, dans un film qui a priori était pourtant ludique, donc, c'est-à-dire qu'on fait varier les situations, etc. Voilà, je trouve que ça tourne un petit peu en rond et ce qui est un petit peu, je trouve, assez frappant là-dessus, c'est le troisième film. Voilà. Qui pour le coup, la troisième partie du film, pardon, qui pour le coup est peut-être le moins intéressant dans la mesure où on suit justement pas vraiment de lieu, enfin on s'ancre pas vraiment dans un lieu, on n'arrête pas de passer dans un petit motel, dans une clinique, dans une sorte de villa, et on va avoir voilà une sorte de circulation qui pour moi nuit un petit peu à ce qui fait la force, comme tu dis, du premier segment quoi.
Alors je trouve ça intéressant ce que tu dis sur Jesse Plemons et Emma Stone, mais d'une certaine manière, on pourrait dire que quelque part, La Favorite se terminait sur une reprise de contrôle, justement, de Lanthimos, qui mettait à genoux, qui mettait de nouveau sous tutelle cette figure-là. Et il se passe un peu la même chose dans La Dernière, sans le dire, mais il y a un peu un triple générique. Il y a d'abord un générique qui est presque une affirmation d'Emma Stone, puisqu'on voit une scène de danse qui est un peu tournée. Et puis il y a une deuxième scène qui, au contraire, quelque part, serait une reprise en main par Lanthimos et qui reprend quelque part le contrôle et ne laisse pas l'actrice s'émanciper, un petit peu comme on pourrait le croire par rapport, c'est vrai, au jeu plus exubérant d'Emma Stone.
Oui, bah, je pense que de toute façon, on peut s'arrêter là. On espère que Lanthimos saura trouver un petit peu une porte de sortie à cette impasse dans laquelle se trouve son cinéma, qui pourtant voilà, n'est pas complètement à jeter, on va dire, on en retient quelque chose. Le film sort en salle très bientôt, il va sortir mi-juin, je crois, quelques semaines après le Festival de Cannes. Pour nous, on va s'arrêter là, on se retrouve demain pour une nouvelle bulle cannoise, et on laisse la parole à Marin pour la carte blanche.
Aujourd'hui, je vais vous parler de Christmas Eve in Miller's Point de Tyler Taormina, qui était présenté à la quinzaine des cinéastes. J'avais vu il y a deux ans le premier film de ce cinéaste indépendant américain, Amon Rai, qui était sorti en salle. J'avais pas été totalement convaincu, même si le film était quand même suffisamment singulier pour que j'ai hâte de découvrir ce film à la quinzaine. Et là, ça me semble vraiment beaucoup plus accompli. C'est encore une fois un film choral, c'est un film de Noël aussi, comme son titre l'indique. Il se déroule simplement le temps d'une soirée, une soirée de Noël, donc dans une banlieue du nord-est des États-Unis. Ça se passe, voilà, l'action est scindée un peu en deux, une partie qui serait le repas, donc qui représente environ 45 minutes, voire une heure de film, avec donc énormément de personnages qui se trimballent ici et là dans une maison de famille. On passe un peu d'un personnage à l'autre sans vraiment s'accrocher à une figure en particulier. C'est presque impossible de retenir des prénoms dans le film, par exemple, tant il y a de personnages. Et là-dedans, Tyler Taormina distille plein de petites vignettes comiques plus ou moins efficaces, mais c'est pas tant, disons, l'efficacité des gags qui convainc qu'une forme de nostalgie extrêmement précise, de mélancolie comme ça qui se diffuse au fur et à mesure à travers de souvenirs qu'on sent extrêmement précis. Le film se passe dans les années 2000, on le devine à travers un certain nombre d'indices, et donc on imagine que Tyler Taormina aussi était adolescent à cette période. Le film fait comme une sorte de vœu de non-efficacité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de récit très fort. Il y a simplement quelques lignes, ça et là, on comprend que cette maison de famille va être bientôt perdue, par exemple, et donc les enfants de la grand-mère qui habite là ont parfois des discussions dans le garage pour savoir ce qu'ils vont faire à partir de là. Mais voilà, le film s'attarde jamais vraiment sur des lignes de scénario pour capter simplement une forme de jus, c'est pas vraiment ça, de sirop, d'élixir de ce que serait vraiment un Noël en famille de façon très juste. Voilà, c'est ça fait un peu penser à The Dead de John Huston, par exemple, ou une version complètement, comment dire, dénuée de drame et de bêtises de cet épisode de la saison 2 de The Bear, c'est l'épisode spécial qui dure 1h20, qui est une sorte de Noël complètement hystérique où tout le monde s'engueule pendant 1h20. Je ne sais pas si des gens qui regardent cette vidéo ont vu cet épisode. Et dans la deuxième partie, que je trouvais encore plus belle, le film devient vraiment un teen movie en suivant un peu les aventures de quelques adolescents de cette famille-là qui sortent de la maison pour aller errer dans la ville. Et là, encore une fois, Tyler Taormina, comme dans Amon Rai, invente toute une série de rites et de traditions un peu irréelles, mais qui ici captent vraiment quelque chose de l'adolescente que je trouve très beau. Il y a notamment, je peux simplement évoquer une scène qui est pour moi une des meilleures scènes de teen movie de ces dernières années, qui consiste à une sorte de constellation de premiers baisers adolescents dans différentes voitures. Donc chaque couple en fait va s'enfermer dans une voiture. Or les voitures sont recouvertes de neige, donc c'est comme des petits cocons. Et Tyler Taormina passe d'une voiture à l'autre. Et évidemment toutes les situations sont assez différentes pour le niveau d'embarras ou pas qui s'y distille. Et là-dessus c'est vraiment très beau. Voilà, j'arrête là, mais c'est vraiment un beau film. Je crois que c'est Robin Vaz qui écrit un texte sur ce film. Et je vous invite à aller le voir quand il sortira en salle.